おかしいおかしい。ちょっと待って
Bonsoir. Abrogation de la loi interdisant la circulation des étrangers dans les zones minières par le chef de l'État. Le président de la République a signé cette ordonnance il y a une semaine. Cette loi était initiée par le député national MLC, Deli Kessanga. Le champ est donc libre pour les étrangers qui veulent séjourner ou circuler dans les zones minières. Pourquoi avoir supprimé l'ancienne loi ? Quelles peuvent être les retombées de ce nouveau test pour les provinces minières ? Voilà des questions à débattre dans cette émission Dialogue entre Congolais. La promulgation de cette loi est saluée de différentes manières par ceux qui nous ont écrit. De Kalemi au Katanga, il y a Louembwe Mbilinyama. Il estime que par cet acte, le président de la République donne carte blanche aux expatriés de s'accaparer des richesses du pays. Ce n'est pas l'avis de Paul Muyembi de Kananga au Kasaï occidental. Pour lui, ceci permettra aux deux Kasaï de se développer et mettre fin, je cite, à l'injustice qui régnait au pays car ces étrangers, dit-il, se trouvaient dans d'autres provinces, le cas du Katanga. Et Samy de Wicha au Nord Kivu qui demande au gouvernement congolais de mettre des garde-fous sur l'application de cette décision. C'est pour, selon lui, décourager certains expatriés qui sont à la base du désordre dans le secteur minier. Nous recevons comme invité dans cette émission Médar Moulangala, les députés nationaux UMR et rapporteur de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. C'est ça, monsieur le député, je crois que c'est exact. Tout à fait. Nous avons aussi Maître Placide Mukendi, conseiller provincial des diamantaires du Kasaï oriental, et Dori Moulong, directeur administratif de Boss Mining, une entreprise minière privée œuvrant au Katanga.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 68 78.
Abrogation de la loi interdisant la circulation des étrangers dans les zones minières par le chef de l'État. Pourquoi avoir supprimé l'ancienne loi? C'est la question qui ouvre le débat dans la première partie de ce dialogue entre Congolais. Mais d'abord, voyons comment la nouvelle loi a été accueillie dans le secteur minier. Réaction du président du conseil d'administration de l'entreprise DRC, Cooper Cobalt Gold Project. C'est une entreprise minière qui exploite le cuivre, le cobalt et l'or. Le PCA, donc le président du conseil d'administration de cette entreprise, Simon Thomas Waku, également ministre honoraire des mines, salue la nouvelle loi. On l'écoute au téléphone de Guy Roger Nyapala.
Je salue la décision du chef de l'État d'avoir pu abroger cette loi parce que cela mettait notre pays, donc la République démocratique du Congo, en dehors des pratiques normales de tout pays. Et cela, en fait, freinait le développement de l'arrière-pays parce que tout se concentrait au niveau de grandes villes comme Kinshasa et Lubumbashi où les investisseurs avaient accès rapidement et les investisseurs qui doivent se déplacer à l'intérieur du pays peuvent se déplacer rapidement et investir. Moi, je suis persuadé que cela aura un impact positif dans les revenus au niveau du trésor. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud qui est un grand pays minier comme le nôtre. Dès que vous entrez en Afrique du Sud, vous avez la libre circulation à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et cela ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas, mais vous êtes à l'intérieur et enfin, la dépense que vous faites, que vous déplacez le diamant à Johannesburg ou de Johannesburg à Cape Town, il y a un certain contrôle qui est fait très discret, mais on sait que quand vous ne faites pas, il n'y a pas atteinte, disons, aux lois du pays, on vous laisse tranquille. Et nous devons aussi nous aligner à tous les pays du monde, comme ça se fait partout.
Un autre responsable d'une entreprise minière, nous l'avons dans cette émission, il s'agit de Dori Moulong. Bonsoir Dori Moulong.
Bonsoir monsieur.
Voilà, et vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle loi qui est promulguée?
Non, je crois que c'est une bonne chose, ce qui va permettre à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien venir investir dans notre pays, de circuler librement. Donc je pense que le pays est assez outillé dans les mesures de contrôle, effectivement, pour qu'il n'y ait pas des abus. Mais en soi, là, c'est une bonne loi. Il faut que tout le monde, tous ceux qui veulent bien venir investir, puissent venir.
c'est une bonne loi. Est-ce que c'est aussi une bonne loi pour vous, Maître Patrice Placide, pardon, Mukendi? Vous êtes conseiller provincial des diamantaires du Kasaï-Oriental.
Oui. Oui, ok. Merci bien, monsieur le journaliste. Quant à dire comment la population du monde des diamants ou du monde des minéraux actuellement exploitables a accueilli la suppression, la loi supprimant le sous-conduit, nous disons que c'est la réaction n'est pas celle des gens pour attendre que ça porte des merveilles aussitôt, mais nous disons tout simplement que la loi, il fallait d'abord qu'on sache au niveau qu'est-ce que ça voulait quand on parle de du sauf-conduit, cela veut dire quoi. C'était d'abord l'autorisation que le ministre de l'Intérieur devait accorder aux expatriés qui devaient séjourner dans les zones minières et qui devaient se livrer à une activité autre que l'exploitation minière. C'est ça, d'abord. Si on se met d'accord sur le concept, là, je pense que le problème ne se poserait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la pratique, lorsque cette loi a été votée, depuis 1967, c'est une loi qui n'a jamais été respectée. Nous avons assisté à quoi? Au niveau de l'applicabilité de la loi, au niveau du ministère de l'Intérieur.
Oui, mais avant, Maître Placide, excusez-moi, avant d'entrer déjà dans la matière, je voudrais d'abord savoir comment vous, vous avez accueilli cette nouvelle loi. Est-ce que c'est une bonne
loi? Bon, la loi est venue. Donc, c'est-à-dire, la loi, ce que nous nous disons, la situation n'a pas changé. Nous avons accueilli la loi, c'est une loi qui est arrivée, c'est une question de végétariat politique, parce que c'est tel député qui a proposé et que la loi a été promulguée, mais ça ne vient rien changer parce que la loi, pendant qu'elle est en vigueur, n'a jamais été respectée, c'est ça la difficulté. Donc on vient seulement rendre légal ce qui était illégal. Parce que, souvenez-vous, lors de la libéralisation de l'exploitation artisanale des matières précieuses, en 1982, sous le régime de la loi de 1967, nous avons assisté, moi j'ai toutes les statistiques, sur les 18 comptoirs recensés dans la ville d'Mbujimayi, il n'y avait que deux seulement tenus par les nationaux et les 16 tenus par des expatriés présents dans la ville d'Mbujimayi. Nous sommes en 1982. En violation de la loi, et aucune sanction n'a été appliquée. Et aujourd'hui, et cette situation est partie de 1982 jusqu'à ce jour. Le code minier en 2002 est venu déjà insérer un amendement qui a vidé cette loi de toute sa substance dans la mesure où dans l'article 126, parmi les conditions réservées à les conditions que doivent remplir les acheteurs agréés qui veulent séjourner dans les zones minières, on dit qu'ils doivent bénéficier de l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Alors que c'était une interdiction formelle. Vous comprenez que le code minier est venu déjà abroger tacitement la loi de 1967 telle que modifiée, complétée par celle de 1986.
En résumé, vous voulez dire quoi? En résumé, Maître Placide, qu'est-ce que vous voulez dire en résumé?
En résumé, nous disons, la loi ne vient rien changer. Au contraire, c'est une façon de rendre légal ce qui était la violation de la loi. Parce que nous avons eu à lever les tons, nous avons parlé. Et pour que les gens ne continuent à parler, voilà, il fallait qu'une loi intervienne pour dire, voilà, on se tourne les sauf-conduits. Et le sauf-conduit n'a jamais été respecté.
Le sauf-conduit, c'est-à-dire l'ancienne loi.
En résumé, pour nous,
oui.
Pour nous, la loi qui intervient en suppression des sauf-conduits ne veut rien changer. Au contraire, elle vient tellement consacrer le pillage des richesses congolaises, monsieur le journaliste.
Voilà. C'est pas le grand que nous respectons. Oui, alors, puisque nous avons un député aussi dans cette émission, député national, Médard Moulangala, ce n'est pas vous qui avez proposé cette loi, c'est connu, il s'agit bien de votre collègue Deli Sessanga, mais vous avez soutenu cette loi. Comment vous pouvez réagir au propos de Maître Placide Mukendi, qui dit que cette loi vient juste consacrer l'illégalité?
D'abord, je dirais que la préoccupation des députés par rapport au sauf-conduit n'est pas nouvelle.
Sauf-conduit,
durant la transition, la demande a été déposée, elle n'a pas abouti. Cette fois-ci, au moins la loi a abouti, c'est une bonne chose. Cela reflète le souhait de la majorité des députés dans l'hémicycle.
C'est-à-dire une bonne chose que les étrangers soient autorisés à circuler librement dans les zones minières.
C'était une demande formulée par beaucoup de personnes et qui traduit la réalité sur le terrain et qui aussi corrige un déséquilibre flagrant. Je m'explique. dans le Congo d'aujourd'hui, toutes les provinces pratiquement sont minières. On l'a découvert aujourd'hui. À partir de là, il était absurde que pour certaines provinces, on puisse déplacer sans difficulté, alors que pour d'autres, connues minières depuis longtemps, on devait avoir un sauf-conduit.
Ça, vous donnez le cas de
quelle
province?
On constate que à l'Équateur, maintenant, il y a eu des diamants aussi. On constate que la province de la tête des diamants sont des faits nouveaux et que d'autres minerais sont intervenus depuis lors qui font qu'il y a un intérêt manifeste pour ces genres d'activités par les investisseurs. Donc nous disons ceci, qu'il était nécessaire de pouvoir régulariser une situation qui était anormale du fait qu'entre 82 67 et aujourd'hui, les choses ont changé et qu'à part les minerais qu'on trouve au Kassai notamment, d'autres provinces aussi ont les mêmes minerais, il est anormal que pour ces provinces-là, il n'y ait pas de sauf-conduit que pour d'autres, il y en ait. Donc, de ce point de vue-là, c'était une remise à pas qui était nécessaire et qui a été faite.
Un peu pour dire, parce que quand vous parlez de sauf-conduit, c'est un peu technique pour les auditeurs qui nous suivent, c'est-à-dire que avant, hein, donc avant la nouvelle loi, les étrangers ne pouvaient pas circuler dans des provinces comme le
Je vais être précis, on ne pouvait pas aller à Kananga avant la nouvelle loi, si on était étranger, sans avoir un sauf-conduit, c'est ça qui est clair. Donc, à partir de là, je crois que cette loi vient normaliser une situation. Vient aussi remettre les choses à plat parce que dans ce pays aujourd'hui, toutes les provinces pratiquement sont des provinces qui regorgent de ressources minières.
Mais justement, mais on ne comprend pas pourquoi Maître Placide Mukendi dit que non, quand vous saluez cette loi, lui il dit qu'elle vient plutôt consacrer l'illégalité.
Je veux dire ceci, hein. J'ai l'impression, en écoutant Maître Mukendi, qu'il défend des intérêts corporatistes. Ce n'est pas mauvais en soi. Je crois que ce qu'il veut dire par là, il a dit aussi une phrase qui m'a frappé, il a semblé dire que ceci va consacrer le pillage des ressources naturelles. Et je crois qu'en disant cela, il veut dire que cela va continuer à perpétuer un processus dans lequel, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas accès à leurs ressources naturelles pour des raisons diverses, mais qui ne sont pas seulement les raisons du thème de la loi. Donc, il faut qu'on fasse des distinguos entre le fait que le marché, on veut ouvrir le marché à tout le monde, on veut le libre accès au marché à toutes les personnes qui en émettent le vœu. On veut qu'il y ait le libre marché. C'est ça le souhait que nous avons sur le plan économique de manière générale. Mais maintenant, dans l'application, son souci à lui, comme je l'ai compris, de voir dans quelle manière, même si on fait cela, les Congolais aussi peuvent bénéficier d'une telle situation.
Dory Moulong, est-ce que vous pensez, vous, que les Congolais vont, en fait, auront maintenant à compétir, si on peut le dire, côté des expatriés sur le même terrain, donc dans ces zones minières, et pas le pillage des ressources minières, comme l'a dit tout à l'heure Maître Placide Mukendi?
Je comprends parfaitement le point de vue de Maître Mukendi. C'est une inquiétude, disons, nationaliste. Mais ce que j'ai dit, c'est que si lui, il semble penser que la nouvelle loi vient, donner une caution au pillage, je ne suis pas du tout d'accord. C'est que s'il est d'accord que ça ne vient que consacrer ce qui s'est passé avant, c'est une bonne chose. Comme ça, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que chacun peut venir ici tout à fait librement. Il peut entrer et faire le travail. Disons, faire l'exploitation. Mais cette fois-là, au moins, on sait que ça doit se passer selon les normes. Si jamais il y a de fraude, on saura qu'il a fraudé. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est quoi? C'est que, on a toujours l'impression que les gens qui viennent ici, ils viennent pour piller, c'est pas du tout évident. Il y en a qui viennent pour le faire, effectivement, mais il y a des Congolais qui sont dans l'exploitation artisanale, ou plutôt qui ont été dans ces zones minières, qui font de l'exploitation au jour le jour, qui sont très bien connus. Qu'ont-ils fait pour leur pays? C'est bien beau les étrangers, c'est vrai, ils peuvent venir, ils prennent, ils partent. C'est les Congolais qui font comme eux. Est-ce qu'ont-ils investi dans le pays? Mais ils font la même chose que les autres. Ceux qui reprochent aux autres, ils vont vendre, en fraude d'ailleurs, à l'extérieur, l'argent ne rentre pas, ils vivent à l'extérieur. Donc je pense que c'est une bonne loi au jour d'aujourd'hui. On dit, ben voilà, ce qui s'est passé en fraude, ce qui s'est passé en cachette, il faut le faire au vu et au su de tout le monde, avec tous les mécanismes de contrôle au jour d'aujourd'hui. Ben, je pense que il faut encourager ce pas, il faut c'est une très bonne loi, moi je pense.
Ouais. Et donc pour vous, il faut pas seulement pointer du doigt les expatriés, il y a aussi des Congolais qui ont aussi des choses à se reprocher, si on vous comprend.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis au Katanga. C'est vrai que ben, quand on pense que le séjour des étrangers dans les zones minières, c'est seulement pour les Kassai ou ailleurs, bon, il y a des Congolais qui exploitent, par exemple, au Katanga. Qu'est-ce qu'ils font pour les Katanga? Parce que visiblement, ils gagnent aussi bien que les autres qui viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils investissent ici? Est-ce qu'ils vont investir ailleurs? Est-ce que font-ils comme les autres? Non, donc je pense qu'il ne faut pas prendre les choses en termes de pillage ou pas.
Voilà, je vois.
S'il y a un pillage.
Oui. Oui, allez-y, s'il y a pillage, terminez votre idée. S'il y a pillage.
Oui, je disais, s'il y a pillage. Mais eux, que font-ils?
Voilà. Il y a Médard Moulangala qui semble pas d'accord.
Au propos de M. Moulangala, d'abord ceci. Il y a deux aspects. La compétitivité des Congolais par rapport aux étrangers sur les marchés miniers et autres. Deuxième aspect, leur contribution au développement de leur pays. Je commence par le deuxième point. La responsabilité du développement n'appartient pas aux citoyens. Elle appartient aux gouvernants. Ce sont eux qui sont là pour mettre en œuvre des politiques et des lois qui permettent au pays de se développer. Donc quelque part, ce sont les dirigeants du pays qui doivent jouer le rôle. Et chacun, là où il est, apporte sa contribution, sous forme de taxes ou autre. Mais la responsabilité première revient au gouvernement, provincial ou national.
Qui doit faire quoi?
On ne peut pas nous culpabiliser, nous, les citoyens, quand il y a des faillances du gouvernement. Non. Le gouvernement doit prendre des bonnes mesures, faire des bons programmes, les appliquer, les exécuter, pour améliorer la vie des citoyens de ce pays et dans tous les secteurs. Donc cette responsabilité-là incombe d'abord au gouvernement, et pas aux citoyens, hommes d'affaires ou autres. Lui, il doit, selon les règles du jeu qui sont d'application, faire son travail et respecter les règles du jeu. Premier point. Deuxième point, le pillage. Non, écoutez, on doit quand même se regarder en face, se dire la vérité. Le pillage dans ce pays a eu lieu. Il a été dénoncé.
Est-ce que c'est correct de s'attaquer seulement aux étrangers?
Il est connu. Je me souviens d'un rapport qui a parlé du réseau des victimes congolaises, qui n'était pas des étrangers. Dans ce rapport du panel, vous vous en souvenez, on a cité les Congolais. Donc le pillage a eu bel et bien eu lieu. Et les Congolais ont été impliqués, cela est connu. Maintenant, que se passe-t-il? Nous devons arriver à mettre fin à ce pillage, et là encore, on se tourne vers les gouvernants, le gouvernement, l'exécutif. Puisque le pillage a été dénoncé.
Et pas le législatif que vous êtes.
Nous avons une mission de faire les lois et de contrôler. Nous pouvons contrôler, mais au finish, quand on arrive au moment du vote, si le vote mécanique l'emporte sur la raison ou bien l'intérêt des Congolais, nous n'y pouvons rien. Donc je voudrais bien signaler cela. Il est important que l'on puisse savoir que cette responsabilité est
prévue par le gouvernement. Voilà. Maître Plastique de Mukindi, on va rapidement y aller parce que déjà, dans votre argument, il y a Louembwe Mbili Nyama de Kalemi au Katanga qui aborde un peu comme vous. Vous avez dit, il y a crainte qui est pillage des ressources. C'est aussi la crainte de cet auditeur. Mais vous venez de suivre, il y a Dori Moulong et même Médard Moulangala qui disent que le pillage n'est pas le propre des étrangers. Il y a des Congolais impliqués dans ce pillage.
Mais c'est bien, monsieur le journaliste. La difficulté se situe à ce niveau. C'est, vous savez, nous avançons une thèse par rapport à l'observation du phénomène. Nous nous sommes dit, depuis la libéralisation de l'exploitation artisanale des substances minérales précieuses. Quel est le constat? Le constat, c'est que quand vous allez à Beyrouth, vous trouvez un quartier qu'on appelle Mijman, où il y a tous les Libanais qui sont en train d'exploiter ou d'acheter le diamant ici, qui investissent chez eux. C'est ça que nous appelons pillage. Mais quand vous allez à Mijman, vous allez à Chikapa, vous ne trouvez que des rabais, vous ne trouvez que des situations qu'on assimile faussement des calamités, alors que c'est des situations créées à dessein.
Qu'est-ce que vous reprochez aux Libanais qui peuvent faire des affaires ici, aller construire chez eux, et des Congolais qui... Oui, et des Congolais qui ne font pas pareil. Qu'est-ce que vous reprochez alors à ces étrangers?
C'est ce que je dis. Je m'excuse de citer en termes de nationalité, mais c'est un exemple que je prends de l'engouement d'une certaine catégorie d'un pays, des réticences d'un pays qui ont consenti avec l'appui de leur gouvernement respectif tous les moyens pour tirer le maximum possible de l'exploitation de notre pays. Mais ce qu'il possible d'avoir cité un pays bien déterminé, mais c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Lorsqu'on vous dit que les nationaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est très grave. Lorsque vous allez dans une ville comme la ville de Chicapa, quand vous allez dans une ville comme la ville de Moulinari, tout ce que vous trouvez comme un semblant d'urbanisation, c'est l'œuvre des nationaux. Il y a un ami qui est en train d'intervenir, qui a parlé, qui a dit qu'il habite le Chabat. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de Moïse Katumbé, qui devient comme un symbole, un prototype de nationaliste, qui grâce aux minéraux, il est en train de faire ce qu'il fait. Mais comment vous allez me dire que les nationaux n'ont rien fait? Mais quand vous dites que les nationaux n'ont rien fait, alors que déjà, au niveau de la loi, il y a déjà des mines, il y a des handicaps au niveau de la loi au départ, pour mettre ou maintenir les nationaux dans une situation de ne rien faire. Si vous venez à Mbouzmaï aujourd'hui, tout ce que vous trouvez, si vous trouvez des petites bâtisses qui donnent l'image d'un semblant de vie, ça c'est l'œuvre des nationaux.
Oui, là, non,
c'est des expatriés qui sont là-bas.
Ok, on va essayer de passer à la deuxième partie de l'émission, mais en attendant, il fallait qu'on se mette d'accord, du moins par rapport à ce que les autres intervenants ont dit, c'est parce que vous disiez que en promulguant cette nouvelle loi, on ouvre la brèche au pillage des ressources minières, mais les autres, c'est-à-dire Dori Moulong et Médard Moulangala, ont voulu au moins vous dire qu'il n'y a pas que les Congolais, ou du moins les étrangers qui sont impliqués dans le pillage, encore, bon, c'est à prouver, il y a aussi des Congolais qui sont dedans, citant notamment le panel. Là, au moins, vous êtes d'accord?
Non, effectivement. Moi, quand je dis, en citant le panel, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce sont des cas isolés. Nous prenons le constat que nous faisons de l'observation du phénomène dans sa globalité.
Merci beaucoup.
Quand nous disons que nous allons dans tel pays, nous trouvons tout un quartier bâti par le diamant du Congo. Mais nous rentrons dans la province qui produit ce diamant. On ne trouve rien, on ne trouve que de l'argent. C'est ça que nous disons. Mais nous, qu'un individu congolais est cité, un ou deux ou trois. Mais vous devez généraliser la règle, pourquoi? Quand vous allez au Sénégal, vous allez trouver des grandes mosquées construites par le diamant du Congo. Vous allez vous trouver dans plusieurs pays.
Oui.
Donc, est-ce qu'il faut que les minéraux du Congo construisent toutes les villes du monde en dehors des villes du pays? C'est ça notre question.
Oui, mesdames.
Nous parlons en termes de pays, c'est ça.
Oui, mesdames,
la question est fondamentale. En fait, vous posez une question de fond qui est laquelle? On a, depuis presque 30 ans maintenant, adopté un système d'exploitation. Au bout du compte, quel en est le résultat? Il faut évaluer ce système-là. Moi, je prends un exemple sans vouloir me prononcer sur le fond. Je dis ceci. Vous allez au Botswana, le système est tout à fait différent. L'exploitation minière est faite par l'État sans aucune difficulté.
C'est un choix
qui a été fait par le gouvernement là-bas, qui semble marcher. Chez nous, on a appliqué un système depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, je pense que le moment est venu d'évaluer. Est-ce la bonne façon de faire? Si ce n'est pas la bonne façon de faire, que faudrait-il faire pour changer les choses? Parce que manifestement, les retombées ne sont pas là, sur le terrain, et cela, c'est ça qui fait mal, pour parler vulgairement.
Voilà, là, vous nous permettez justement d'introduire la deuxième partie de cette émission, abrogation de la loi interdisant la circulation des étrangers dans les zones minières par le chef de l'État. Quelles peuvent être les retombées de la nouvelle loi pour les provinces minières? Nous poursuivons cette émission Dialogue entre Congolais après ce rappel pour vous qui avez des réactions à nous faire.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Voilà, donc vous avez le contact pour faire parvenir vos réactions. Abrogation de la loi interdisant la circulation des étrangers dans les zones minières par le chef de l'État. Quelles peuvent être les retombées de la nouvelle loi pour les provinces minières? On écoute Boniface Kabea, il est président de l'UCEDAC, Union des creuseurs et exploitants de diamants artisanaux au Kasaï oriental. Il est au micro de Julien Namouni.
Nous sommes très contents de cela parce qu'il aurait fallu toujours abréger ça, parce que nous sommes restés ici, la ville de Mbujimaï, telle comme vous la voyez, est une ville qui a commis trop de problèmes. Et nous voulons que les investisseurs viennent pour investir ici, et ça nous ferons vraiment très très contents. Donc les étrangers ne viennent que pour exploiter les diamants, mais ils viennent ici pour investir, mais nous allons d'abord savoir comment ils vont exploiter les diamants, parce que nous avons beaucoup de chemins ici, on va engager beaucoup d'autres services. Mais nous allons toujours discuter avec eux sur les engagements et d'autres problèmes. S'ils viennent d'abord, on va en parler à leur présence.
Dori Moulong, alors, puisque vous travaillez dans une entreprise minière, hein, c'est Boss Mining, vous êtes directeur administratif, quelles peuvent être justement ces retombées, de façon un peu plus précise et concrète, les retombées dans ces zones minières?
Ben, je crois que il est tout à fait évident que lorsque ces gens vont venir pour investir, il y a des contreparties, ça veut dire, comme c'était le viennent, ils prennent, ils partent. Par exemple, pour les diamants, qui te sont dans la poche et partir. Mais je crois qu'il faudrait qu'ils s'intègrent dans la contrée où ils veulent. Créer des infrastructures, qu'ils engagent des gens. Et je crois que c'est de cette manière-là que les choses peuvent aller correctement et que les choses peuvent être comprises par la population.
Donc, pour vous, les étrangers autorisés à circuler, même à séjourner dans les zones minières, devraient donc s'intégrer, poser un peu plus d'action sociale, si on comprend, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, Maître Placide, il y a Paul Mouyembi qui nous écrit depuis Kananga au Kassai occidental. Lui pense que la nouvelle loi permettra aux deux Kassai, donc oriental et occidental, de se développer et mettre fin à ce que lui qualifie d'injustice qui régnait au pays. Il dit que ces étrangers se trouvaient notamment au Katanga, donc dans d'autres provinces, et pas dans les deux Kassai. Comment vous pouvez, comment vous trouvez justement ce point de vue?
Oui, je comprends, il a en quelque sorte raison. Parce que la difficulté dans cette histoire aujourd'hui, c'est au niveau de l'applicabilité. Je crois que je l'ai dit le 22 novembre, quand on était ensemble, j'étais chez Passe au studio, il y a eu une difficulté au niveau de l'applicabilité. Le sauf conduit d'abord, ce n'est pas l'interdiction des étrangers de séjourner, de circuler dans les zones minières. Ça que les gens ne comprennent pas. Le sauf conduit, c'était l'autorisation, le ministre, je venais de le dire au début de la mission, le ministre de l'Intérieur devait donner à tout étranger qui devait venir dans les zones minières pour se livrer à l'activité minière. La carte là, c'est OK. Non, pour se livrer à l'activité autre que l'activité minière. Je m'excuse pour la tautologie. C'est ça la difficulté. Mais lorsque, parce que le principe était posé par le législateur, que tout étranger qui devrait se livrer à l'activité minière ne devrait pas séjourner dans les zones minières. Alors, il y a eu des difficultés au niveau de l'applicabilité de la loi au niveau du ministère de l'Intérieur. Ceux qui venaient pour se livrer à l'activité minière, moyennant paiement, ce qui n'était pas prévu par le législateur, ils venaient très vite dans les zones minières pour se livrer à l'activité minière. Mais ceux qui venaient pour, dans des bits même plus nobles que... pour la province ou les provinces productives, là, la porte-mère était bloquée. C'est ça qu'on peut appeler l'injustice. Et là, je lui donne pleinement raison. Donc, si on peut parler en termes de résumé, je l'ai dit au début de l'émission, le gouvernement, au travers du ministère de l'Intérieur, n'aura plus d'alibi pour empêcher les véritables investisseurs et d'autres coopérants qui viennent pour aider les Congolais, qui séjournent ou qui habitent les zones minières. Il n'aura plus d'équation. Ce sont des zones minières, il ne faut pas aller.
Ils ont donc le champ libre.
Ils ont le champ libre. Mais, maintenant, au-delà de ça.
Oui, mais par rapport à ce que Dori Moulong a dit, qu'il faut que ces étrangers, justement, puissent s'intégrer dans les zones où ils vont séjourner, il y a évidemment Samy de Wicha, du Nord Kivu, qui demande même au gouvernement de mettre en place des garde-fous. Hein, pour garantir peut-être cette intégration-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, c'est là que j'ai dit. J'ai dit que depuis 1982, l'exploitation, la production de minerais du Congo se gérait au-delà de 70% par les expatriés.
Comment ça?
Quand nous observons le phénomène, nous disons mais le Congo en a tiré quel profit? La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la fraude, quels sont les résultats? On dit que c'est zéro, on trouve que c'est zéro.
Oui, mais quels sont les garde-fous? Quels sont les garde-fous que le gouvernement doit mettre en place?
Les garde-fous doivent être dans la loi qui est prise aujourd'hui. Qu'est-ce que les honorables députés aujourd'hui nous disent dans cette loi? Quels sont les garde-fous qu'ils ont mis pour sécuriser le secteur minier? Parce que nous sommes dans un pays essentiellement minier. Donc, le secteur minier reste la seule source d'entrée de devises pour la RDC. Maintenant que l'exploitation de ce secteur devient, a toujours été extravertie, profite plus plus à l'étranger. Je vous donne un exemple.
Non, mais vous avez posé une question, maître Platy, vous avez posé une question et vous l'avez presque adressée directement à Médard Moulangala, qui est député national. Je lui ai eu l'occasion de répondre, Médard Moulangala, quels sont les garde-fous prévus par la loi, justement, pour sécuriser le secteur minier? C'était la question de Platy.
En fait, maître Boukendi pose deux questions pour moi, que je mets comme ceci. La première porte sur ce qui est fait par le gouvernement, par les dirigeants, promouvoir l'entrepreneur local. Dans le diamant ou ailleurs, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir l'entrepreneur congolais qui lui permet de compétir avec les autres investisseurs du pays?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait?
Non, c'est une première question. La deuxième question qui pose, en fait, la question de manière globale de la politique d'immigration de la RDC. Vous savez, l'immigration est un grand débat dans d'autres continents, en Europe notamment. Chez nous, quelle politique est mise en place? Comment va-t-on l'immigration? Parce qu'au-delà des investisseurs qui est là, c'est la politique elle-même qui est en jeu. Et je reviens maintenant à un vrai débat. Est-ce que ce gouvernement ici, que nous avons, Gisenga 2, est capable d'apporter des solutions à ces problèmes-là? Est-ce que ce gouvernement que nous avons aujourd'hui prend des mesures qui vont dans le sens souhaité? J'ai parlé de deux choses. D'abord, de nous éclairer sur la politique d'immigration que notre pays veut mener, premier élément. Et deuxième élément, ce qui est fait pour que les Congolais puissent effectivement bénéficier des revenus de leur sol. Nous sommes, comme l'a dit Maître Mukendi, nous, Congolais, dans cette situation de... Nous sommes pas au même niveau que d'autres personnes en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès au financement, en termes de connaissances, en termes de beaucoup de questions qui font que on n'est pas compétitif sur le plan des affaires.
Oui, mais vous jetez la balle,
au gouvernement, nous disons ceci.
Vous jetez la balle dans le camp du gouvernement, mais au niveau des textes, au niveau des lois, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, par exemple, comme garde-fou pour sécuriser le secteur minier? C'était ça, en fait, la question.
Le secteur minier, les lois sont là, il faut les appliquer. Et l'application des lois relève du gouvernement provincial ou gouvernement national.
Donc vous avez fait votre part.
Nous avons fait notre part. Nous avons donné le texte au gouvernement, nous avons donné les moyens au gouvernement. On constate malheureusement que dans ce domaine comme dans d'autres, il ne parvient pas à remplir sa tâche, à remplir sa mission. Donc le problème de fond aussi, c'est lequel, monsieur le journaliste, c'est que est-ce que ce gouvernement, est-ce que les dirigeants actuels sont capables de prendre les décisions qui s'imposent pour amener le pays là où il devrait aller? C'est ça le vrai débat de fond. On me dit qu'en Bujima et bien qu'à Chikapa, il y a beaucoup d'érosion. Cela est comme, ce n'est pas assez nouveau. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait concrètement? Le budget, on a inscrit longtemps pour l'aéroport de Bujima. Nous sommes maintenant au mois d'avril. Quatrième mois du budget 2008. Je me demande si ce projet a connu le moindre début d'exécution. Donc, il y a un problème du gouvernement d'exécuter la politique qui a été déterminée par l'Assemblée, et dans le cas précis pour Mujima, il y a un montant qui a été mis pour l'aéroport. On ne voit rien sur terre.
Dori Moulong, vous avez dit, et c'est vous qui avez d'ailleurs souhaité que les étrangers qui viennent investir puissent s'intégrer dans les milieux, dans les zones minières. Et voilà, pour ce qui est des garde-fous, Médard Moulangala dit que c'est la grande responsabilité revient au gouvernement. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous avez une idée de ce que le gouvernement, peut-être les députés aussi, doivent faire exactement pour sécuriser ce secteur minier?
Je suis en train de suivre. Maître Lédard a peut-être raison, c'est vrai, mais il y a un autre problème. C'est que nous avons ces textes de loi qui répriment, par exemple, la fraude, qui répriment le vol. Nous avons les codes miniers. C'est une section avec des sanctions. Je crois qu'il est vrai. Responsabilité du gouvernement, c'est vrai, c'est de la responsabilité des cours. Et aussi, cet étranger qui viendrait, qui serait accueilli ici, qui ne respecte pas les lois du pays, je crois qu'il faut le prendre, éventuellement le chasser ou l'emprisonner pour ça. Le gouvernement, c'est vrai, mais il y a des lois, qui doivent fixer tout simplement. Le code minier a déjà tout prévu, je crois qu'on a rentré dedans et appliqué.
Voilà. Donc, cela se résume, d'après vous, les garde-fous se résument par l'application des lois, donc au niveau du gouvernement. Il est temps pour nous de prendre les réactions des auditeurs avec Guillaume-Julien Pallard qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir Guillaume-Julien.
Bonsoir Jean-Claude. Pascal Molingua de la ville-province de Kinshasa veut savoir à quoi servirait cette loi car les autorités congolaises eux-mêmes permettaient déjà aux étrangers d'accéder dans les carrières. Hilaire Aguenonga de Bounia dans la province orientale s'interroge en ces termes. Est-ce que l'abrogation de cette loi n'est pas une manière de permettre aux Chinois de se retrouver dans l'ensemble du territoire national? Cette mesure va-t-elle améliorer la vie sociale de peuple congolais, s'interroge Chimanga de Mbujimayi au Kasaï oriental. Enfin, pour Bobo de Goma au Nord Kivu, abroger cette loi signifie laisser la porte de nos carrières ouverte à tout le monde sans inquiétude.
Merci Guy Roger Yampala. Maître Placide Mukendi, quand vous parlez, oui. Bon, on prend d'abord la réaction de le point de vue de Bobo de Goma dans le Nord Kivu, lui qui pense que abroger cette loi, c'est laisser la porte des carrières ouverte à tout le monde sans inquiétude. Je crois que la question a été un peu évoquée. Mais vous, quand vous parlez, d'ailleurs, Médard Moulanga, le député national, a dit, on sent en vous, évidemment, vous défendez l'intérêt des diamantaires. En fait, vous avez peur de l'arrivée des étrangers, apparemment, hein, Maître Placide.
Nous n'avons pas peur de l'arrivée des étrangers, monsieur le journaliste. Nous disons depuis, parce que nous sommes avec ces étrangers ici. Souvenez-vous dans l'historique, dans l'histoire de l'exploitation minière de notre pays, je mets entre parenthèses l'exploitation artisanale avec le diamant en tête et l'or après, et les autres minéraux. Nous avons connu des Sénégalais pour nous parler de la ville de Mouzma. Les Sénégalais sont partis. Mobutu à l'époque a pris la courageuse décision de chasser les Sénégalais parce qu'il s'est rendu compte que leur séjour ne profitait qu'à leur pays. Ils sont partis. Après lui, il y a Imouzou qui a pris cette courageuse décision en application de la loi de 1967, telle que modifiée par celle de 1986, qui vient d'être malheureusement abrogée sans pour autant mettre de garde, faut comme nous le disons. Il l'a fait, et aujourd'hui on dit que même, par exemple, dans ce qui est arrivé, c'est l'une des décisions corrigées pour courageuses qu'il ne pouvait pas prendre dans sa vie. Vous comprenez? Nous regrettons.
Oui, mais
alors qui douze, qui émettent, des inquiétudes. Oui. Je suis de leur point de vue, oui. Qui émettent des inquiétudes, que c'est venir consacrer le pillage, déjà commencé, venir y consacrer des richesses congolaises, oui, nous disons, parce que pendant qu'il était interdit à ces expatriés du secteur minier de séjourner dans les zones minières. Ils y étaient. Quel est le résultat pendant qu'on était avec eux? Ce sont les données de sécurité. Il y a des gens qui ont parlé des érosions en Mouzouma et à Tikapa partout. Mm. C'est ça le résultat. Mais nous disons, pourquoi le constat, c'est vrai que il n'y a que les nationaux qui ont cet élan de patriotisme, cet élan de nationalisme, malgré leurs maigres moyens,
Sans
financement,
ouais.
Ils essayent de faire quelque chose. Pourquoi ne pas permettre le temps ne met pas de garde-fous pour les appuyer à développer.
Maître, je vais vous demander d'être un peu concis parce qu'on tend vers la fin de l'émission, mais puisque vous avez évoqué les garde-fous encore une fois, on a suivi sur cette question, Glory Moulang, lui, avait parlé de l'application de la loi, Médard Moulanga l'a soutenu sur ce point, et pour vous, c'est quoi les garde-fous que
Les garde-fous, c'est ceci. Au niveau de la loi, les honorables députés qui jettent la balle dans les temps du gouvernement, ce n'est pas suffisant. Les garde-fous, on les trouve dans la loi d'abord. Vous allez dans les zones minières. C'est l'exemple type que je donne. Dans les zones minières en tant qu'expatrié, voilà vos obligations en faveur du développement des zones minières. C'est l'exemple type. Il y en a beaucoup.
Oui, donnez un exemple.
Et là, au niveau de la loi, ça doit figurer. Ça doit transpirer au niveau de la loi. Maintenant, au niveau de l'applicabilité, l'indigénat du Parlement, en tant que l'organe national de contrôle, doit veiller sur le gouvernement pour que le gouvernement ne soit pas défaillant dans l'applicabilité de la loi. Il ne faut pas qu'on dise que les garde-fous sont au niveau de l'applicabilité. Si dans la loi il n'y a pas de garde-fous, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le gouvernement ne peut appliquer la loi.
Oui, mais
donc,
vous...
il fallait qu'il y ait des
garde-fous. Non, vous avez donné un exemple, excusez-moi, concrètement. Vous voulez que les étrangers fassent quoi, par exemple? Qu'ils construisent des routes ou qu'ils construisent des...
Par exemple, je reviens sur la loi de 1981, avant l'avènement du nouveau code minier. La loi disait que tout étranger qui doit avoir, pour avoir un comptoir dans les zones minières, il doit investir, avoir un programme dans les domaines sociaux agricoles. Il doit avoir un immeuble en résidence, à titre de résidence, à mesure durable, en tant que propriété. Mais actuellement, ça ne se fait pas.
Oui.
Ça ne se fait pas.
Oui, mais
le nouveau code minier est venu sur ça. Il y a élaboré seulement un projet
dans le soir social, en termes d'investissement socio agricole.
Oui, merci.
Là, il a maintenu, par exemple.
Merci Placide. On prend une deuxième réaction. Médard, vous allez peut-être enchaîner avec un répondant, parce que les auditeurs nous ont quand même envoyé leurs messages et réactions. Il faut que vous puissiez y répondre. Il y a Pascal Moulindois de la ville de Kinshasa, et lui il s'est dit à quoi servirait cette nouvelle loi, car les autorités congolaises elles-mêmes permettaient déjà aux étrangers d'accéder dans ces carrières. C'est un peu ce qu'a dit, je crois, Maître Placide.
Je crois que la loi était devenue caduque, hein, et il était normal qu'on puisse abroger ça, c'est tout à fait. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais moi je voudrais un peu enchaîner sur la préoccupation de notre collègue Mukendi, et parler un peu de l'organisation structurelle du secteur minier artisanal. Vous avez des creuseurs, des négociants, vous avez au comptoir d'exportation. Quelle crainte a-t-il, à mon avis? C'est de voir l'expatrié, doté de moyens plus importants, arriver au niveau du creuseur. Et dès lors, votre concurrence déloyale. C'est ça le grand enjeu qu'il y a. Parce que certains pensent qu'en faisant cela, on verra maintenant dans le lieu de production même des personnes dotées de plus grands moyens qui vont faire la concurrence aux nationaux et qui peuvent dès lors les empêcher de prospérer. Je crois que la préoccupation est à ce niveau-là.
Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un certain protectionnisme? Il faut empêcher finalement, alors qu'on a autorisé ces étrangers d'accéder à ces zones? Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut les limiter quelque part ou...
mais écoutez, la loi est évolutive, le débat est intéressant, mais ce qui est vrai, c'est que quand on fait le bilan de cette libéralisation du secteur minier artisanal, on doit s'interroger si c'est la bonne méthode. Parce que, comme l'a dit le même maître Mukendi, sur le terrain, rien n'est visible. Ce n'est pas propre au secteur minier, artisanal, pas du tout. C'est l'ensemble du piqué comme ça. Donc il y a un côté gouvernance qui pose problème, mais il y a aussi un côté système d'exploitation qu'il faut certainement réétudier. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il est important, notre humble avis, que cette question soit posée avec clarté et que l'on puisse définir une nouvelle politique qui puisse garantir et les nationaux et les investisseurs.
Voilà. Allez, on va peut-être terminer avec vous, Dori Moulong, avec Hilaire Agenonga de Bounia dans la province orientale, lui qui se demande si l'abrogation de cette loi n'est pas une manière de permettre aux Chinois de se retrouver sur l'ensemble du territoire national.
Ben, je ne pense pas que les seuls investisseurs auxquels on fait action soient seulement les Chinois. Je ne pense pas que le pays puisse se développer avec l'artisanat essentiellement. Parce que, observez bien, j'ai entendu Maître Mukendi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que quand j'observe les artisanaux, les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est l'esclavage. Où est-ce qu'ils vont vendre leurs produits? C'est des gens qui se cachent, visiblement. Je pense tout simplement que nous sommes en phase de reconstruction du pays, qu'il faut donner la chance à des investisseurs qui viendront pour amener beaucoup de capitaux et faire un développement industriel normal dans les temps qui ferment. Donc, il n'y a pas que les Chinois, il y a tous les autres qui peuvent venir. Si les Chinois sont là, c'est parce qu'ils veulent bien venir ici. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais tous les autres aussi, je crois qu'il faudrait ouvrir la compétition et en face de la construction qui vient de faire un temps. Avec tous les garde-fous, les codes miniers sont là et les autres codes sont là pour appliquer de la différence. Okay. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut prendre des choses.
Et je pense que au niveau des diamantaires, au Kassai, Maître Placide, vous allez faire un effort pour résister à la concurrence.
Résister dans le, on met dans la concurrence, nous sommes prêts à résister dans la concurrence pourvu qu'elle soit loyale.
De façon loyale, évidemment. De façon loyale, on espère.
C'est ça que j'ai dit, monsieur le journaliste. La concurrence loyale, c'est la règle d'or dans le monde du business. Mais lorsque la concurrence devient déloyale, c'est ça le problème. Non, la difficulté.
Vous avez l'impression qu'elle. S'il vous plaît, vous avez l'impression qu'elle sera déloyale?
Non, elle l'a toujours été. Je reviens encore au code minier.
En quelques secondes, parce qu'on est à la fin. En quelques secondes.
Oui, le code minier prévoit par exemple, je vous montre vraiment l'exemple type de la concurrence de l'OEAL. La loi de 1981 prévoyait que le creuseur ou l'exploitant artisanal, comme il m'appelait creuseur, exploite le diamant du sol ou n'importe quel minerai, les vendent aux négociants qui est la catégorie intermédiaire et les négociants les vendent au comptoir. Maintenant, le code minier dans la même philosophie, toujours extravertie.
Oui,
de,
oui, concluez votre idée parce qu'on est à la fin. Concluez, en un mot.
Oui, nous disons tout simplement
pour
le gouvernement, que le gouvernement prend le courage de favoriser l'émergence de la classe moyenne,
merci beaucoup,
durable,
merci,
le développement de notre pays.
Merci, Maître Placide. Merci à Meda Moulangala et à Dori Moulong. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Paulin Moukéo était à la mise en onde, réalisation d'Anselme Sissi Moumbéré. Guy Roger Niampala était à la préparation et Jean-Claude Toumba Kamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.